Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Libre à vous. Vous avez le droit de savoir. Nous recevons aujourd'hui l'association Madada qui vise à faciliter l'accès aux documents produits ou reçus par l'administration et les autorités publiques dans le cadre de leur mission de service public. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Vincent Calame sur les empacteuses et empacteurs de logiciels libres. Également la chronique d'Antanax sur les apprentissages informatiques par les jeunes et moins jeunes. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles. Également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 13 avril 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabella Vanni. Bonjour Isabella.
Bonjour.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Vincent Calame, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage de logiciels libres au sein de collectivités, associations, mouvements, équipes en tout genre, c'est la chronique Jouons Collectif. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Le sujet du jour, les empacteuses et empacteurs de logiciels libres pour les distributions.
Oui, dans cette chronique, j'aimerais rendre hommage à des soutiens du libre, sans qui l'utilisation et la diffusion de nos logiciels et systèmes favoris seraient bien compliquées. Donc je veux parler effectivement des empacteuses et empacteurs de logiciels libres. Alors, Kessako, les habitués de cette antenne savent que quand on parle d'installer un système libre sur un ordinateur, on parle d'installer en fait une distribution GNU Linux. C'est-à-dire que Linux ne vient jamais seul, mais accompagné d'une tripotée de logiciels. Si vous voulez installer LibreOffice sur votre ordinateur sous, avec Microsoft Windows, vous devez aller le télécharger. Mais dans une distribution GNU Linux, LibreOffice est prêt à être installé, voire installé automatiquement. Et ça, ce n'est possible parce que quelqu'un a préparé LibreOffice sous forme de paquet prêt à l'emploi. Alors pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'émission du 29 janvier 2019 sur les distributions.
Alors, petite correction, c'est le 22 janvier 2019, c'est l'émission sur les distributions. Donc les distributions GNU Linux, on a parlé ce jour-là de Debian, Ubuntu, Mageia, mais tu vois, je pense, donc c'est des environnements sur lesquels évidemment on peut installer entièrement un environnement de travail avec du logiciel libre, hein, tout prêt. Et il y a différentes distributions en fonction peut-être principalement des besoins. Donc on en a parlé. Donc c'est l'émission du 22 janvier 2019 sur les distributions.
Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui se rapproche le plus de l'idée de distribution, ce sont les magasins d'applications des téléphones. Parce qu'en fait, vous ne téléchargez pas un logiciel sur votre téléphone comme vous pouvez le faire sur un ordinateur. Vous allez le chercher dans le magasin. Mais évidemment, il y a une différence de taille. Dans un magasin, ce sont les entreprises productrices du logiciel qui le proposent, au bon vouloir d'ailleurs, de Google ou d'Apple. Dans une distribution, ce sont des bénévoles qui vont préparer le paquet à partir du code source du logiciel. Ces personnes ne font pas nécessairement partie de l'équipe qui colle le logiciel. Parce que pour faire un bon paquet, il faut certes connaître le logiciel, mais aussi les exigences de la distribution. En fait, une personne qui code va souhaiter promouvoir la toute dernière version de son bébé, alors que la personne qui fait un paquet va privilégier la stabilité, parce que c'est elle qui est en fait responsable de la diffusion du logiciel auprès d'un large public. Alors, pour illustrer ce travail d'empaquetage et ses embûches, je vais prendre pour exemple le paquet du logiciel SPIP, de la distribution Debian, bon, ce qui me permet au passage de saluer son responsable, David Prévost, et de le remercier à cette antenne pour son travail qui nous est bien utile pour la nouvelle génération des sites de l'April.
Eh ben oui, parce que les nouveaux sites de l'April, en tout cas la nouvelle génération des sites de l'April, vont être sous SPIP, donc ce logiciel de gestion de contenu dont tu vas nous parler. Et le premier site de cette nouvelle génération, c'est le site librealire.org. Donc librealire, c'est un site dédié aux transcriptions sur les libertés informatiques. On a plus de 800 transcriptions qui ont été faites par notre groupe de travail transcription. Et je vous rappelle que chaque mois, Marie-Odile Morandi, l'animatrice du groupe transcription, fait d'ailleurs une chronique dans l'émission. Donc je vous invite à voir librealire.org et bientôt il y aura libreavoue.org et le site principal de l'April, april.org, sera aussi migré en SPIP. SPIP, justement, Vincent.
Voilà, alors, pour comprendre la difficulté de l'entreprise de faire un paquet, il faut rappeler donc que SPIP est un logiciel de gestion de contenu, autrement dit, un logiciel dédié à la production de sites web. et il fait partie de toute une génération de logiciels nés au cours des années 2000, le plus connu étant WordPress, qui ont en commun d'être écrits dans le langage PHP et conçus pour être installés dans le cadre d'un hébergement mutualisé de sites web. Alors, qu'est-ce que c'est un hébergement mutualisé ? C'est un hébergement mutualisé, c'est une formule très bon marché où vous achetez auprès d'un hébergeur un espace où vous pouvez déposer tous les fichiers que vous voulez. Bon, il y a bien sûr beaucoup moins de possibilités que quand on dispose de son propre serveur, mais dans les années 2000, avoir son propre serveur, c'était un luxe. Donc, ces logiciels sont installables facilement, mais du coup, ils ont un autre point commun, ils mélangent allègrement dans l'arborescence de leur répertoire les paramètres de configuration, le code du logiciel, les fichiers téléversés, les fichiers de personnalisation du site, les extensions téléchargées d'un site tiers, bon, j'en passe, des meilleurs. Or, sur un ordinateur, heureusement, ça ne se passe pas comme ça. L'arborescence des fichiers suit des bonnes pratiques d'organisation. Si vous avez déjà consulté celle d'un système GNU Linux, vous verrez la présence d'un répertoire ETC pour la configuration, d'un répertoire USR pour les logiciels, d'un répertoire VAR bon, pour les données, je cite les plus connus. Donc ça permet à la personne qui administre le serveur de savoir où se rendre pour résoudre tel ou tel problème. On comprend facilement que la tâche serait bien plus compliquée si chaque logiciel n'en faisait qu'à sa tête dans l'organisation des fichiers. Et donc, dans le travail pour le paquet SPIP de Debian, il fallait ventiler les différents répertoires composant SPIP dans l'arborescence du système pour respecter cette hiérarchie normalisée. Et quand le logiciel n'a pas été conçu pour ça au départ, ce n'est pas simple. Il faut jouer sur les renvois, les liens, pour qu'aucun chemin soit cassé. Donc l'autre travail fait sur le paquet Debian, pour laquelle je suis particulièrement reconnaissant à David Prévost d'avoir fait, c'est la mutualisation du code de SPIP. Alors je m'explique, quand vous avez plusieurs sites SPIP, vous devez à chaque fois installer le code entier. Du coup, à chaque mise à jour, vous devez reprendre les sites un par un. SPIP propose une extension pour mutualiser le code, donc simplifier le processus, mais j'avoue que je n'avais jamais eu le courage de me plonger dedans. Or, le paquet SPIP de Debian intègre cette extension et le rend ainsi beaucoup plus facile à l'utiliser. Et bien sûr, l'intérêt d'un paquet, c'est que vous avez rapidement les correctifs de sécurité et que ceux-ci sont appliqués en même temps que toutes les mises à jour habituelles de votre serveur. C'est précieux quand il s'agit de logiciels gérant des sites parce qu'ils sont très exposés à des actes de piratage. Bon, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais bon, comme moi-même, je n'ai jamais encore franchi le pas de l'écriture de paquet, je ne suis pas le mieux passé pour en parler. Alors, je ne peux que suggérer qu'une émission Libre à vous soit consacrée à ces femmes et hommes de l'ombre, indispensables à la diffusion des logiciels libres et qui recherchent toujours de nouveaux volontaires.
Alors, tout à fait, par exemple, la distribution de Debian dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est plus de 1000 personnes qui font de l'empaquetage de paquets, ce qu'on appelle donc de l'empaquetage en français, ou du packaging en anglais. Bah, peut-être que tu serais volontaire pour animer un sujet long sur le sujet, hein, pour, si on trouve des personnes volontaires pour parler de leur travail.
Alors, il y en avait, je sais, effectivement, aux soirées de contribution du Libre de Parinux, on avait des personnes qui faisaient des paquets pour Debian, donc oui, il y aura des personnes qui pourraient présenter leur travail.
Eh bien écoute, on va prévoir ça dans le calendrier. Je rappelle que les distributions GNU Linux, nous en avons parlé dans l'émission donc du 22... alors tu m'avais dit 29, mais c'était 22 janvier 2019. Donc vous retrouvez le podcast sur causecommune.fm et sur april.org. C'était la chronique Jouons collectif de Vincent Calame. Je te souhaite une belle fin de journée.
Merci, à vous aussi.
Merci Vincent. Donc nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Desire par Marc Vard. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Mark Vart par Desire, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY. Le site de l'artiste, c'est sur SoundCloud, donc soundcloud.com/Mark Vard. Donc Mark Vard, excusez-moi, ça s'écrit M-A-R-K-V-A-R-D. Vous retrouvez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui porte sur l'accès aux documents administratifs. En effet, nous avons le droit de savoir. Nous recevons aujourd'hui l'association Madada, qui vise à faciliter l'accès aux documents produits ou reçus par les autorités dans le cadre de leur mission de service public. Le site de Madada, c'est madada.fr. Nos invités, Laurent Savaet, fondateur de Madada, membre d'Open Knowledge Foundation, fondateur d'openfindata.io, Pascal Romain, membre de l'Open Knowledge Foundation France, ingénieur territorial au département de la Gironde, et Eda Nano, administratrice de l'April, ingénieure informaticienne, qui travaille une partie de son temps avec Madada et qui va animer ce sujet long. Donc je vous passe la parole, en espérant que vous êtes évidemment tous sur le pont. Donc Eda, c'est à toi.
Bonjour Fred, je suis bien là. Et il y a Laurent avec moi. Laurent.
Bonjour.
Et Pascal.
Bonjour.
Alors bonjour à tous les deux, je suis très contente d'être là, c'est ma première fois sur la radio de l'April. Et, donc je m'appelle Eda et je vous parlerai aujourd'hui en compagnie de Laurent et de Pascal de Madada. Alors qu'est-ce que c'est Madada ? Madada c'est tout d'abord un site web, une plateforme web. Le nom c'est un acronyme. C'est un jeu de mots aussi avec Madada, un cheval, et Madada pour ma demande d'accès aux documents administratifs. Donc c'est un site, une plateforme qui facilite les demandes d'accès aux documents administratifs pour les citoyens. Donc c'est une plateforme citoyenne. On va en parler largement aujourd'hui, mais je voulais juste vous dire un mot avant. Vous dire que c'est basé sur le logiciel libre Alavetéli. C'est très important de parler un peu d'Alavetéli aujourd'hui, parce que pour moi c'est vraiment l'esprit du logiciel libre qui est incarné dans Alavetéli. C'est donc un logiciel qui est à la base de Madada, mais aussi d'un tas d'autres sites sœurs et frères de Madada dans le monde. Et c'est ainsi que, par exemple, on va avoir, de la même façon que Madada, en Angleterre, on va avoir What Do They Know, l'équivalent Madada. En République tchèque, on va avoir InfoPro Všechny, je le dis sûrement pas bien. En Suède, on va avoir Handlinger.se. Aux Pays-Bas, Wopknop.nl. En Belgique, on va avoir transparencia.be et ainsi de suite. C'est très important parce que c'est toute la beauté des logiciels libres qui permettent en fait d'être déclinés comme ça infiniment dans plusieurs autres pays. Et dans chaque pays, il y a eu donc une adaptation du logiciel à travers la langue et aussi la législation du pays. Mais je vais laisser Pascal et Laurent vous présenter un petit peu qu'est-ce qui est derrière les demandes d'accès aux documents administratifs. On peut commencer par toi, si tu veux, Laurent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment Madada est née et comment toi, tu t'es retrouvé dedans ?
Oui, alors, Madada, en fait, il y a eu un faux départ autour de 2014, à peu près, où les membres d'origine d'Open Knowledge France, dont je suis pas fondateur pour corriger ce qui a été aidé au début. Les membres fondateurs de Open Knowledge France, c'est Pierre Chranowski et Samuel Goeta qui avaient démarré en 2012. Ils ont tenté de démarrer la plateforme en 2014 et puis ils ont eu des petits soucis de ressources humaines. Et en fait, on a pris contact début 2019 quand je suis tombé sur un article de presse qui émanait de la plateforme anglaise. Et puis bah de là on a relancé la plateforme. Donc elle est partie, ça a été mis en production autour de l'automne 2019. Suite à un premier hackathon qu'on avait fait au mois de juillet 2019, où on avait regroupé une dizaine de personnes à Paris pour pour essentiellement travailler sur la question de comment on gère les dizaines de milliers d'autorités françaises qui existent et comment on agrège la liste de tout ça. Voilà. Et puis quelque part au mois de septembre ou octobre 2019, on a mis le site en route. Et puis après, je peux laisser Pascal prendre le relais pour parler un petit peu de la suite de l'année qui a suivi.
Oui, ben moi j'ai rejoint l'aventure donc un peu avant le lancement de la plateforme, début octobre 2019, et j'ai assisté Laurent un peu dans les dernières retouches de avant la publication du site, et puis surtout l'assistance aux premières utilisateurs. Et notamment dans le travail de fond qui constitue aujourd'hui le principal de notre activité, c'est s'assurer que nous avons bien les bonnes coordonnées pour rentrer en contact avec les autorités publiques françaises, qu'elles sont bien listées dans notre annuaire qui est issu de la récupération à la fois de l'annuaire du site servicepublic.fr et de la liste des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs qui est maintenue plus ou moins à jour par la CADA, qui est la Commission d'accès aux documents administratifs. Voilà, sachant que les collectivités locales ou établissements publics ont l'obligation normalement de nommer une personne responsable de l'accès aux documents administratifs afin d'assister, de superviser les réponses qui doivent être apportées normalement dans un délai d'un mois par les administrations qui sont contactées, saisies par les citoyennes ou les citoyens, associations ou même d'autres autorités administratives qui pourraient saisir une autorité administrative pour obtenir un document public.
Pascal, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'accès au droit, que le droit d'accès aux documents administratifs, sur quoi il repose? Est-ce que c'est un droit qu'on a tous? Est-ce qu'il y a eu une loi dernièrement qui a un peu augmenté ou mis un peu un cadre à ce droit? Qu'est-ce qu'il en est en France de ce droit d'accès? Et de quoi il s'agit exactement pour les citoyens en fait?
Alors l'histoire du droit d'accès aux documents administratifs en France est assez ancienne puisqu'elle date en fait d'une loi de 1978 qui s'appelait Informatique et Liberté et qui était censée équilibrer à la fois un peu une augmentation du pouvoir des autorités publiques qui était rendue possible par le développement de l'informatique et d'avoir le pendant en termes de liberté aussi, surtout de contrôle des informations qui pouvaient être détenues par les autorités publiques sur ces citoyennes ou ces citoyens. C'était donc le versant liberté de cette loi. Et donc cette loi statue que chaque citoyenne ou citoyen a le droit de demander à n'importe quelle autorité publique, hein, pas seulement celle de son lieu de résidence ou d'exercice professionnel, des documents produits ou reçus par des autorités publiques. Dans le cadre, bien sûr, d'un certain nombre de restrictions qui concernent notamment la protection de la vie privée, du secret des affaires ou d'autres droits comme le droit d'auteur ou la sécurité nationale ou des choses comme ça. Et puis petit à petit, cette loi de 1978 a été enrichie par des nouvelles dispositions, et notamment récemment par la loi pour une République numérique de 2018, d'une certaine manière, augmente les droits des usagers leur permettant de saisir de manière électronique les autorités publiques et qui oblige les autorités publiques qui ont été saisies par une citoyenne ou un citoyen à rendre publics pour tous les documents demandés, à condition bien sûr que ça ne concerne pas des données nominatives, mais ils peuvent également procéder à l'anonymisation des documents Le fait qu'il contient, que ces documents puissent contenir des données nominatives n'est pas suffisant pour en refuser la communication. Et puis après, il y a un certain nombre de délais légaux qui, eux, sont consignés dans une loi qu'on appelle la loi pour les archives et qui définit des délais de communicabilité pour certains types de documents. Mais globalement, chaque citoyenne, chaque citoyen français a le droit de demander n'importe quel type de document produit par une autorité publique et elle a un mois pour répondre. Et si jamais elle ne répond pas au bout d'un mois, à ce moment-là, on peut soit lui écrire à nouveau en lui demandant si elle a bien reçu le message, quelles sont les raisons pour lesquelles elle a fait un refus implicite, c'est-à-dire sans réponse, ou explicite en refusant la communication du document, à l'issue de quoi on peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs, qui de nouveau, elle, a deux mois pour répondre et qui va rédiger un avis après avoir pris la tâche de l'autorité publique saisie pour voir pour quelles raisons elle n'a pas communiqué le document demandé. Et voilà, le seul souci, c'est que cet avis de la CADA n'est pas contraignant. Et donc, quand bien même la CADA prononcerait un avis favorable pour la publication du document, l'autorité publique n'a pas forcément l'obligation de publier ce document. Et donc à ce moment-là, il ne reste plus à la citoyenne ou au citoyen qu'à saisir le tribunal administratif pour qu'il se prononce sur le cas de refus de communication du document. Et donc tout ça aujourd'hui est consigné dans le code des relations entre le public et les administrations qui définit l'ensemble des obligations auxquelles sont astreintes aujourd'hui les autorités publiques en matière d'accès public à l'information.
Donc, si je résume, Laurent et Pascal, en tant que citoyenne, je peux demander à n'importe quelle administration de mon État, par exemple une mairie, un ministère ou un service de ministère, une préfecture. Je peux leur demander un document qu'ils détiennent, comme par exemple un marché qui a été passé, un contrat qui a été passé. Ils auront un mois pour me répondre. Si au bout d'un mois, je n'ai pas de réponse, l'étape d'après, c'est de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, que nous avons reçue ici à l'April, dans une émission spéciale CADA. Donc j'ai un mois pour la saisir. La CADA, elle va ensuite décider si le document que j'ai demandé peut ou ne peut pas être m'être transmis et va demander de façon non obligatoire, si j'ai bien compris, à l'administration de me donner ce document-là. Donc son avis est juste consultatif, il n'est pas donc obligatoire. Donc si l'administration ne le fait pas à partir de ce moment-là, moi je peux en tant que citoyen porter un recours devant le tribunal administratif. Et à ce moment-là, l'avis de la CADA jouera peut-être un rôle important dans ce recours. Donc même s'il était consultatif avant. D'accord. Donc Laurent, en quoi est-ce que Madada facilite ce processus qui semble administrativement complexe? Qu'est-ce que Madada permet de faire justement?
Ouais, je pense qu'en fait on a juste en écoutant la longueur et la complexité de la réponse de Pascal, on a à peu près 80% de la réponse à ta question. La loi est compliquée, les différentes étapes de l'approbation d'une demande, c'est extrêmement simple de s'y perdre. Et en fait, ce que Madada fait, c'est simplement qu'on simplifie un petit peu tout ça. Donc on prend l'utilisateur ou l'utilisatrice par la main et on va lui demander à qui la demande doit être faite, à quelle autorité, à quelle partie de l'administration française la demande doit être faite. On fournit un modèle de demande qui est pratiquement rempli, il suffit de rajouter deux phrases pour dire le document qu'on veut obtenir ou les documents qu'on veut obtenir. Et puis on appuie sur envoyer et puis c'est parti. Le site s'occupe de trouver la bonne adresse mail pour envoyer la demande. La demande est transmise à la bonne personne. Les réponses sont reçues sur la plateforme. Et puis toutes ces histoires de délai d'un mois, deux mois, etc. La plateforme renvoie aussi des mails de rappel à la demandeuse ou au demandeur, de même qu'à l'autorité pour justement signaler que, attention, votre délai d'un mois est presque écoulé, qu'est-ce que vous voulez faire, ou le délai est échu, etc., etc. Et puis proposer à chaque fois, on aiguille les demandeuses et demandeurs vers les différentes options qui sont possibles. Donc ça, il y a une partie qui est automatique par la magie de l'informatique, si j'ose dire. Et puis, il y a pas mal d'huile de coude aussi derrière, de la part de quelques-uns de nos volontaires que je ne nommerai pas ici. l'essentiel de la valeur ajoutée du site, pour simplifier, c'est qu'on permet à des gens qui ne connaissent pas l'essentiel de la loi, qui ne connaissent pas tous les détails de la loi, de pouvoir en bénéficier quand même.
Merci Laurent. Est-ce que tu aurais un exemple ou des exemples de demandes qu'on peut faire ou qui ont déjà été faites via Madada? Je te laisse choisir celle que tu veux ou quelques exemples que tu penses pertinents.
Ouais, alors dans les demandes un petit peu d'actualité, on a des utilisateurs qui ont demandé à obtenir je l'ai sous les yeux par exemple, les statistiques de l'utilisation de l'appli Tous Anti-Covid. Parce qu'a priori aujourd'hui, l'information existe, puisque les distributeurs de l'application savent combien de gens l'utilisent et quand, etc. Mais cette information-là, elle pourrait être rendue publique. Donc il y a une demande qui a été faite il y a quelques jours sur ce sujet-là. On a des journalistes qui ont travaillé récemment, il y a un article qui a été publié récemment, sur les indemnités des élus des métropoles et des communautés de communes françaises. Pour généraliser un petit peu, on peut demander à peu près n'importe quoi qui est connu d'une partie de l'administration française. On pourrait demander un organigramme d'une partie de je pourrais demander l'organigramme de la mairie, on pourrait demander la liste des véhicules qui sont gérés par une commune, on pourrait demander la liste des personnels enseignants dans un département. Concrètement, tout ce qui est géré par l'État, au sens très large, on peut poser la question, tant qu'évidemment l'information n'est pas de nature défense nationale ou de secret commercial. On ne peut pas demander non plus d'informations, d'informations médicales, par exemple. Et évidemment, si l'information est... Oui, et puis si l'information est déjà disponible au public, il n'y a pas vraiment de sens à la redemander sous forme d'une demande CADA. Après, je pense que Pascal a probablement des réponses encore plus pertinentes là-dessus, parce que...
Oui, même question pour toi, Pascal.
Je n'ai pas été à son plus pertinente, mais en tout cas, dans une démocratie représentative comme la France... On transfère une partie de notre pouvoir à nos représentants que nous avons élus, et donc en contrepartie, la loi prévoit qu'on peut demander des comptes, et en tout cas que les pouvoirs élus doivent être en capacité de rendre compte de leurs actions. Et donc on pourrait citer dans les éléments un peu de base de cette transparence de l'action publique le budget, c'est-à-dire combien d'argent dépensé en face de combien d'argent reçu et les sources de ces recettes. On pourrait demander la liste des subventions, des aides financières apportées soit à d'autres autorités publiques, soit à des individus, soit à des associations. On pourrait demander la liste des marchés publics c'est-à-dire toutes les commandes passées par les autorités publiques de manière à pouvoir rentrer en relation avec des fournisseurs pour leurs achats, qu'ils soient de type logiciel ou pour la construction d'un bâtiment, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les trois documents que, de manière proactive, les autorités publiques devraient publier. Elles le font assez rarement et encore plus rarement sous la forme de données. Donc un des intérêts de Madada, c'est aussi de développer un peu la culture de la donnée aussi bien auprès des citoyennes, des citoyens que des administrations, en rappelant que la loi demande aujourd'hui de transmettre les informations publiques communicables sous la forme de fichiers dans des formats ouverts permettant la réutilisation des données qu'ils contiennent. Et pour ça aussi, un des leviers de Madada, c'est que l'ensemble des échanges entre les demandeurs et les autorités publiques sont publics. Sur une espèce de mur qui récapitule l'ensemble des messages que se sont envoyés les deux parties au travers de la plateforme. Donc, bon, sans aller jusqu'à faire du name and shame, nommer et blâmer, on peut utiliser ce caractère public pour mettre un peu la pression sur les administrations et sortir un peu du secret des correspondances qui n'était pas toujours en faveur des demandeurs. En plus de la complexité du droit, effectivement, que encore beaucoup de citoyennes et de citoyens méconnaissent.
Très bien. Merci Pascal, merci Laurent. Maintenant, je voulais un peu justement parler de ces difficultés-là. Depuis décembre que j'ai rejoint l'équipe de Madada, nous sommes une petite équipe, donc il y a nous trois. Il y a Pierre Chranowski qui n'est pas là, qui est le président d'Open Knowledge Foundation aussi. Et il y a Samuel Guetta qui est aussi très actif dans l'open data de par son métier et son travail en France. Donc il est un des fondateurs de Data Activist. Donc je voulais justement parler avec vous des difficultés rencontrées. Quel est l'état de l'open data, de la transparence des données ouvertes en France, et quelles sont les difficultés les plus courantes qu'on remarque dans Madada? Laurent, peut-être?
Oui, alors il y en a plusieurs. Je pense que probablement la première, c'est celle dont on vient de parler, c'est le fait que la loi est relativement complexe et le fait que les gens, de manière générale, ne sont pas forcément très au courant de l'existence même de cette loi. Donc là, il y a un premier sujet, arriver à faire prendre conscience aux gens que... On entend souvent des gens nous dire « mais on n'a pas telle info, on ne sait pas ce qui se passe ». Et en fait, on pourrait le savoir. Et souvent, la réponse, c'est simplement de sauter sur Madada et puis d'envoyer une demande à l'administration pertinente et puis avec un petit peu de chance obtenir l'information qu'on voudrait obtenir. L'autre point de difficulté, je ne vais pas les mettre dans l'ordre parce que j'en serais pas capable, mais on voit pas mal de résistance de la part des administrations françaises. Le cas le plus courant, c'est qu'une demande est envoyée et puis il se passe rien. L'administration ne répond pas parce que on a eu quelques cas où effectivement ils ne connaissaient pas le droit eux-mêmes du côté de l'administration. Mais aussi, je pense que souvent ça fait un peu poil à gratter et l'administration n'est pas nécessairement, très motivé pour distribuer l'information sur laquelle elle est assise. Et donc ça pose des problèmes. Donc il y a clairement un écart en France entre la loi telle qu'elle existe, telle qu'elle est écrite, et puis la manière dont elle est appliquée. Oui, il y a sûrement il y a beaucoup d'autres problèmes, mais je pense, de mon point de vue, en tout cas, ces deux-là sont probablement les plus courants. Après, Pascal, je te laisse prendre le relais si tu as d'autres points.
Oui, justement, Pascal, je voulais te demander, tout à l'heure, tu as évoqué les PRADA, les personnes responsables de l'accès aux documents administratifs. Donc, ce sont des personnes qui doivent être nommées par les administrations. Donc, chaque administration doit en nommer une. Et c'est cette personne, du coup, qui, au sein de l'administration, sera responsable pour les demandes d'accès aux documents citoyennes et qui doit donc répondre, faire suivre, et, etc., les dossiers. Qu'est-ce qu'il en est de ces PRADA, Pascal? Est-ce que chaque administration en a un? Est-ce que l'annuaire, il est connu, mis à jour, etc.?
Non, effectivement, nous, c'est ce qu'on peut constater. Hein. D'abord, dans le travail initial de construction de notre annuaire, on a récupéré assez peu de boîtes mail, de contacts de ces personnes responsables, sachant que notre source principale d'information en la matière, c'est la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui souffre de notoriété publique, d'un manque de moyens. Et qui elle-même, bien qu'elle soit elle aussi une autorité publique, a finalement assez peu de pouvoir contraignant sur les autorités publiques. Et donc il y a un article dans le code des relations entre le public et les administrations qui mentionne le fait explicitement que les autorités publiques ont l'obligation de nommer cette personne et également de publier publiquement ses coordonnées qui permettent de la saisir. Mais force est de constater, depuis qu'on travaille sur ce projet, que c'est très rarement le cas. D'ailleurs, on pourrait, de manière un peu cynique, remarquer ça a été beaucoup plus rapide pour nommer des délégués à la protection des données dans le cadre de la mise en œuvre du règlement général pour la protection des données. Donc là, effectivement, il y avait des sanctions financières, mais on pourrait aussi imaginez que les collectivités locales ou autres autorités publiques ont été plus promptes à nommer ce genre de délégués, puisque ça leur permettait éventuellement de trouver de nouvelles raisons pour refuser la publication de certaines informations, en invoquant souvent un peu à tort et à travers le RGPD, et qu'on trouve beaucoup plus souvent dans les mentions légales des sites internet de ces autorités publiques les coordonnées du DPD que de la PRADA. Donc ça nous oblige à faire ce travail un peu de fourmi à la main, parfois même en contactant par téléphone les autorités publiques, avec parfois des échanges un peu kafkaïens où les personnes au sein des administrations ne semblent pas connaître cette partie du droit administratif et trouvent toujours un peu bizarre qu'on leur demande ce genre d'informations. Donc après avoir été redirigé vers 3 ou 4 interlocutrices ou interlocuteurs différents, on finit par, avec un peu de chance, aboutir dans un service juridique ou un service communication, mais sans être toujours bien sûr qu'on va avoir l'information qui permet ensuite de saisir correctement les administrations. Donc ça, c'est vraiment un problème de mise en œuvre du droit. Et puis le second problème, c'est un peu ce que tout le monde connaît un peu en France, l'expression du millefeuille administratif, et qui se reflète par le fait que aujourd'hui on liste 50 000 autorités publiques qui ont chacune des domaines de compétences qui parfois se recouvrent à des échelles territoriales différentes. Et donc ça constitue aussi un peu une difficulté pour les demandeuses et les demandeurs qui utilisent Madada ou qui souhaitent juste faire une demande de communication d'un document administratif, de savoir quelle est l'autorité qu'il faut saisir. Alors normalement, il y a aussi un élément dans le droit qui stipule que quand une administration est saisie par un citoyen, une citoyenne ou un citoyen, et qu'elle n'est pas la bonne interlocutrice, c'est à elle normalement de rediriger la demande vers la bonne autorité publique.
Pascal, on en parlera en détail après, on revient juste après la pause musicale. Je laisse la parole à Fred.
Écoutez, merci. Je vais rappeler juste que l'émission avec le président de la CADA sur Libre à vous, c'était le 15 janvier 2019. Et on fait un petit coucou personnel de l'April au ministère des Armées, vu qu'on attend toujours un certain nombre de documents. Mais évidemment, on va les relancer et on passera par la CADA après. Donc nous allons écouter une pause musicale. Nous allons écouter Hard Country par Townhouse Woods. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix est possible.
Cause Commune 93.
And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here, he moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful. This year is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end. Then I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me at the U Bar Inn, you'll find me. Room 11, just me and my six gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, give you some lessons round these parts.
Nous venons d'écouter Hard Country par Townhouse Woods, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Le site de l'artiste, c'est townhousewoods.bandcamp.com. Vous retrouvez les références sur le site de l'April et sur causecommune.fm. Et j'ai précisément que je suis sûr que certains fans auraient rêvé qu'on écoute Adada de Bourvil, le sujet. Mais voilà, j'ai choisi plutôt ce titre-là. Et donc, nous allons poursuivre notre discussion. Alors, j'ai oublié le jingle, c'est pas grave, Isabella, c'est moi qui me trompe, mais c'est pas grave. Nous allons poursuivre notre discussion donc avec Laurent Savaette, Pascal Romain et Eda Nano pour parler donc de Madada et de l'accès aux documents administratifs. Je vous repasse la parole.
Alors, on est de retour. Laurent, est-ce que tu pourrais nous donner un peu de chiffres parce que là, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, presque un an et demi, que Madada est en ligne. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le nombre de demandes et la croissance de la plateforme?
Ouais, j'aime bien les chiffres. Alors, en gros, sur la première année, on a eu quelque chose comme autour de 200 demandes qui ont été postées sur le site. Et depuis, on est à en gros un an et demi d'existence. On est tout juste au tournant des 1000 demandes. Donc, ça augmente très très vite depuis les 6 derniers mois, et en particulier depuis le lancement de nouvelles fonctionnalités plus. Mais ça, je pense qu'on va y revenir. Une autre statistique qui est intéressante, c'est le taux de réponse des demandes. Et on est a priori dans l'ordre de grandeur de la moyenne française actuellement, c'est-à-dire qu'on a entre 10, 12, 15% de réponses positives aux demandes. Ce qui veut dire que sur à peu près 1000 demandes, on en a une grosse centaine, entre 120 et 150 à peu près, auxquelles on a obtenu une réponse satisfaisante. Il y a tout un spectre de satisfaction entre la réponse, on va dire, parfaite, et puis la réponse qui obtiendrait mention passable. Mais ce qui est intéressant de voir là-dedans aussi, c'est qu'on a plus de 80% des demandes qui restent un peu lettre morte ou qui sont simplement refusées, très souvent, comme disait Pascal, avec des motifs qui ne sont pas forcément exactement ceux prévus par la loi. Mais voilà à peu près dans les ordres de grandeur.
Et pour avoir une idée de comparaison avec une plateforme peut-être plus ancienne, comme par exemple peut-être What Do They Know, la plateforme anglaise, qui est peut-être une des plus anciennes, si je ne me trompe pas. Quels sont leurs chiffres par rapport à nous de réponses?
Oui, ils ont démarré bien avant nous. Ils ont pratiquement une dizaine d'années d'expérience et d'existence. L'autre élément qui est assez important, c'est que le droit équivalent au droit CADA en Angleterre, qui s'appelle Freedom of Information, FOI, est à mon sens beaucoup plus connu par la population, et ça se voit dans les chiffres. Ils ont, en 10 années d'existence, ils ont dépassé le cap des 700 000 demandes. Je crois qu'ils sont autour de 750 000 aujourd'hui, avec des taux de réponse qui sont beaucoup plus élevés. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je sais que quand on a parlé de nos taux de réponse, ils étaient presque outrés de voir qu'il n'y ait pas plus que 50% de réponses positives aux demandes. Mais je pense que ça, c'est une... Il y aurait moyen de faire une étude un petit peu socioculturelle plus approfondie là-dessus pour comparer la manière dont les citoyens se perçoivent leur gouvernement et perçoivent leur relation avec leur gouvernement. Mais voilà. Mais bon, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de potentiel de croissance et puis on en y travaille dur.
Je voulais à ce stade parler du fait qu'on a reçu... Eric Botorel à l'April, il n'y a pas très longtemps, et justement son rapport parlait justement de changer un peu la donne et de faire de l'ouverture, de la transparence, que ce soit de l'ouverture des codes sources et des documents administratifs, d'en faire une culture ancrée dans les administrations et dans la population en France. Est-ce que vous pensez que la donne va changer, ou est-ce qu'il y a des signes que les choses vont changer dans les prochaines années, mois ou années, en sachant que il y a eu le plan pour un gouvernement ouvert qui a été relancé, je crois, le plan des 2 années qui a été relancé dernièrement. Quel est votre sentiment là-dessus et vos envies surtout, Pascal et Laurent?
Ah ben on peut voir la bouteille moitié vide, moitié pleine, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu une nouvelle vague, disons, de l'accès aux documents administratifs quand le mouvement de Open Data a heurté les côtes françaises. Donc entre 2010-2011, il y a un certain nombre de collectivités publiques qui se sont lancées dans ces démarches, plus parce qu'elles en espéraient des retours économiques que vraiment pour faire progresser le droit d'accès des citoyennes et des citoyens. Donc aujourd'hui, on a à peu près, 60% des départements français qui ont ouvert une plateforme, à peu près 50% des communes de plus de 100 000 habitants, mais il reste, mais on est toujours qu'à 10% des communes entre 3 500 et 100 000 habitants. Et c'est ça le gros quand même des autorités publiques françaises, hein, puisqu'on a toujours nos fameuses 36 000 communes. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que cette situation n'est pas toujours le résultat d'une mauvaise volonté des autorités publiques, c'est aussi par manque de moyens. Et ce manque de moyens, on le retrouve aussi bien à la CNIL qu'à la CADA, à laquelle d'ailleurs on peut noter qu'on n'a pas donné de pouvoir de contrainte. Et donc on a assisté un peu ces dernières années, là entre 2017 et 2020, un empilement un peu des réglementations, certaines qui visaient à se mettre en conformité avec le droit européen, mais sans que derrière ça s'accompagne véritablement des moyens nécessaires pour que ça bascule vers une culture de la transparence et de l'accès facilité aux citoyens à leurs informations publiques. Et récemment, on discutait avec nos amis anglais, auxquels on disait que certaines autorités publiques pouvaient refuser la communication d'un document en arguant du fait que ça leur occasionnait trop de travail. Et donc cette excuse, entre guillemets, existe également en Angleterre, mais en Angleterre, elle est encadrée par une quantité de travail nécessaire que doivent justifier les autorités publiques, alors qu'en France, il n'y a rien de tel. Et donc, c'est la voie un peu ouverte à n'importe quelle mauvaise foi de la part de ces autorités administratives, sachant que parfois, et ça nous est arrivé également, que les autorités publiques auxquelles on demandait des documents, nous renvoient des documents. Donc, soit par méconnaissance, par manque de culture numérique, soit par une forme aussi également un peu de mauvaise foi, sachant que pour revenir aussi sur la question du droit, certaines autorités publiques méconnaissent le droit ou alors l'utilisent à leur avantage en systématiquement utilisant le refus implicite, c'est-à-dire la non-réponse, en attendant que la CADA ensuite se prononce sur la validité de la demande formulée par le citoyen et le citoyen, ce qui fait que l'accès aux documents administratifs en France reste toujours un peu un parcours d'obstacles pour lequel il faut s'armer de patience, puisque un mois d'abord pour le délai légal, puis ensuite 2 mois théoriquement pour la réponse de la CADA, sachant qu'elle peut aussi avoir du retard. Donc il faut pas être pressé quand on veut exercer son droit d'accès en France.
Je sais que nous avions parlé avec nos amis de Transparencia dernièrement, qui nous racontaient un petit peu comment ils avaient fait un travail auprès des politiciens et des élus avant les municipales pour mettre en avant la transparence et l'open data, ce qui est déjà le cas en fait en France. On voit que ce sont des sujets qui sont de plus en plus à la mode, on en parle de plus en plus aisément, on a de plus en plus d'élus qui sont délégués ou adjoints à l'open data et à la transparence, mais du coup, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, c'est-à-dire à leur demander des vrais retours une fois élus et une fois en place, comme avait fait par exemple Transparencia.be, qui nous disait qui avait réussi en fait à faire passer la CADA d'une institution dont l'avis était purement consultatif à une institution où l'avis devient obligatoire, donc à un pouvoir plus fort d'obligation et de contrainte envers les administrations. Donc est-ce que vous voulez peut-être revenir un peu là-dessus sur leur travail politique pour la transparence en Belgique?
Oui, alors ils ont, chez Transparencia, ils ont pris un parti un tout petit peu différent du nôtre. À savoir que chez Madada, on a pris un petit peu le parti initial de rester relativement neutre dans les campagnes qu'on défend et qu'on soutient. Chez Transparencia, ils ont pris un biais un petit peu plus, on va dire, journalistique, activiste et puis politique. Et ils ont notamment travaillé à comparer l'efficacité des différents partis politiques à répondre aux demandes cadavres. Et donc ils avaient sorti en collaboration avec un journal belge une espèce de hit parade des mairies, des bourgmestres, je crois que ça s'appelle en Belgique, et de leur capacité à répondre positivement et rapidement aux demandes qu'ils recevaient. Je saurais pas donner les résultats, mais clairement ça semblait avoir généré des résultats dans le sens où notamment les mairies qui étaient peut-être plus en bas du classement s'étaient d'un coup souvenu qu'il y avait une boîte mail avec des demandes CADA qui arrivaient dedans et visiblement ils s'étaient un petit peu réveillés et avaient décidé d'y répondre peut-être de manière un petit peu plus positive. Ils ont fait d'autres choses très chouettes chez Transparencia. Ils avaient notamment la Belgique est un État fédéral et ils avaient plusieurs CADA, plusieurs commissions d'accès aux documents administratifs, une par État fédéral. Et ils ont réussi à les, si je ne m'abuse, ils ont réussi à les regrouper. Et comme tu disais plus tôt, ils ont réussi aussi à leur donner un pouvoir plus que consultatif, puisqu'ils sont maintenant capables de donner d'émettre des avis contraignants. Ce qui est intéressant pour améliorer la transparence, justement. Donc on a encore des choses à faire chez nous.
Et justement, Laurent, tout ça est possible parce que la communauté, en fait, de toutes nos plateformes se connaît un peu grâce à la VTLI. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur quel est le rôle joué par la VTLI, donc le logiciel libre à la source de nos plateformes? Quel est leur rôle pour toute cette communauté, pour nous faire connaître ensemble, pour nous faire peut-être travailler ensemble ou échanger en tout cas? Comment ça se passe aussi le retour arrière? Est-ce que nous, on apporte des choses à notre tour à la VTLI? Tu es technicien, tu es ingénieur informaticien chez nous, donc c'est toi qui es le plus à même d'être en relation avec la communauté à la VTLI. C'est pour ça que je m'adresse à toi.
Oui, alors déjà Madada est né parce que c'était un petit peu un hasard, mais c'est né parce que je vivais en Angleterre à l'époque où on a démarré et j'étais tombé sur, comme je disais, un article de presse qui émanait en fait d'une demande CADA, enfin d'une demande FOI en Angleterre. Les échanges, on travaille pas mal en fait. L'association My Society, qui est derrière le logiciel à la VTLI, fait beaucoup d'efforts pour essayer de faciliter ces échanges entre les différentes plateformes nationales. Comme tu disais au début, je crois qu'il y a entre 25 et 30 plateformes maintenant qui utilisent le logiciel à la VTLI de par le monde. Il y en a en Europe, mais il y en a aussi loin qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a quelques pays africains. Il y a des plateformes qui se déploient maintenant en Amérique latine. Et toutes ces plateformes, en fait, on utilise tous le même socle de logiciels, chacun avec des petites adaptations. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a aussi une mailing list qui regroupe des membres de toutes ces différentes plateformes. Et là-dessus, il y a pas mal d'échanges, de bonnes pratiques, des sujets, des gens d'échanges qui reviennent régulièrement. Pour donner des exemples, c'est l'anonymisation des données. Un cas d'usage particulier, c'est une demande qui génère l'ouverture d'un document qui contient des données privées, par exemple des adresses de personnes ou des numéros de téléphone. Et il y a eu beaucoup d'échanges autour de cette question. Comment est-ce qu'on peut cacher ces informations-là pour que le document puisse être mis à disposition du public sans toutefois causer problème parce qu'on y révèle Par exemple, l'adresse personnelle du demandeur ou le numéro de téléphone privé d'une personne qui n'a pas apparu dans ces documents-là. J'allais finir en disant que de notre point de vue, on remonte aussi de la question vers MySociety, tout simplement sous la forme de fonctionnalités logicielles parfois. On corrige des petits bugs, on a produit des traductions, donc typiquement on a récupéré, nous, une grosse partie des traductions de l'anglais vers le français de la plateforme belge, et tout récemment on a vu un email d'une personne en Suisse qui cherchait à réutiliser une partie de notre travail pour mettre en route un site pour la Suisse. Donc c'est intéressant de voir comment finalement le logiciel libre permet cette réutilisation de 90-95% du travail, et donc en ajoutant juste un tout petit peu d'huile de coude au final, on est en mesure de mettre en route des plateformes et d'essaimer un petit peu et de faciliter la transparence dans tout un tas d'autres pays avec une somme de travail qui a rien à voir avec ce qu'on devrait faire si on devait démarrer depuis le début en fait.
Et justement, il y a des nouvelles fonctionnalités dans Madada depuis pas très longtemps, qui ont été développées à la base dans Alavetelli et qui ont été portées dernièrement dans Madada. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Pascal ?
Oui, effectivement, on a bénéficié de l'accompagnement de la fondation MySociety pour mettre en œuvre ces nouvelles fonctionnalités qui permettent notamment de faire ce qu'on appelle des demandes groupées, c'est-à-dire que à l'intérieur de ce fameux millefeuille administratif, on va avoir par exemple en France un peu plus d'une centaine de départements qui ont tous les mêmes compétences, mais sur des ressorts territoriaux différents. Donc si je veux demander la liste des subventions publiques accordées en 2019 par exemple, jusqu'ici il fallait que je fasse manuellement ces 100 demandes auprès de chacune de ces administrations. Là aujourd'hui je peux les sélectionner à l'intérieur de notre annuaire et envoyer la même demande à ces différentes autorités. Et ensuite, l'état d'avancement de mes demandes, de leurs éventuelles réponses, tout ça est consigné et organisé dans un tableau de bord qui est mis à disposition des utilisatrices ou des utilisateurs et qui leur permet de suivre les différentes actions qu'ils doivent réaliser, les réponses qu'ils ont reçues, les relances qui sont nécessaires et qui leur permet également de récupérer un fichier qui récapitule l'ensemble de ces informations si jamais ils veulent effectuer une saisine groupée auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. Donc ça, c'est la première des fonctionnalités, disons, qui intéresse le plus grand nombre. Mais on a également une fonctionnalité qui permet de mettre ce qu'on appelle sous embargo des demandes d'accès aux documents administratifs. Cette fonctionnalité est plutôt à destination soit des journalistes, soit des associations un peu activistes, soit des chercheurs qui veulent maintenir une certaine confidentialité temporaire sur leur sujet de recherche ou d'investigation. Et puis, une fois qu'ils ont récupéré ou pas les documents demandés et qu'ils ont publié leur travail de recherche ou d'investigation, à ce moment-là, ils peuvent lever l'embargo sur leurs demandes et les rendre publics comme étant les sources de leur travail d'investigation ou de recherche.
Et je rebondis là-dessus parce que c'est un peu comme ça que je suis venue à connaître Madada. C'est de par mon activité avec la Quadrature du Net, dont je suis membre, où on faisait beaucoup de demandes CADA dans le cadre de la campagne Technopolis. Et c'est comme ça que nous avons en fait vu toutes ces nouvelles fonctionnalités de Madada qui nous servent beaucoup en fait pour analyser, faire des demandes CADA en batch, en groupe, et ensuite prendre le temps d'analyser ces demandes, les documents reçus surtout, quand on les reçoit, et ensuite de publier dessus et ensuite de publier les données en données ouvertes. Il nous reste plus beaucoup de temps, je voulais juste que vous me disiez quelques mots sur le modèle économique de Madada. Nous sommes une petite équipe Moi, je suis employée à temps partiel depuis décembre. Pascal, je crois que tu l'as été aussi à un moment. Mais nous faisons tous un peu ou beaucoup de travail bénévole. Quel est le modèle économique de Madada et comment est-ce qu'on peut aider? Voilà. Laurent, peut-être?
Allez, je prends celle-là. Ouais, le modèle économique de Madada, on n'a pas voulu suivre l'exemple de nos collègues anglais, par exemple, qui font payer l'accès aux fonctionnalités plus-plus dont Pascal parlait à l'instant. On a préféré partir sur l'idée que ces fonctions doivent être accessibles à tout un chacun, ou chacune, et gratuitement, surtout. Donc oui, on fait effectivement beaucoup de bénévolat. On est toujours preneur d'aide en nature, si j'ose dire. S'il y a des gens qui se sentent intéressés par le sujet, on est toujours preneur de ça, d'un coup de main. Financièrement, après, on est bien soutenu par l'association Open Knowledge France. Et je pense qu'il y aurait des choses à faire en termes de concentration de dons, notamment de la part des utilisateurs, vers Open Knowledge France. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de structure qui permette de faire fonctionner ça correctement.
Mais sinon, donc, je rebondis là-dessus pour dire qu'on est preneur de votre temps de support, de bénévolat. Ça peut être pour une traduction, ça peut être pour de la communication, pour n'importe quoi. Si vous avez envie de participer, vous pouvez nous écrire à contact@madada.fr. Nous avons aussi un blog où vous pouvez suivre un petit peu les nouveautés. Nous avons un compte Mastodon. Nous avons un compte Twitter aussi. Mais on garde notre alternative libre au Mastodon. On a depuis hier un nouveau compte Peertube où on a mis en ligne notre dernier webinaire qui explique un petit peu par l'exemple comment faire des demandes d'accès aux documents sur Madada et comment utiliser Madada pour les débutants, pour les très grands débutants. Donc allez-y. Tout ça, c'est sur notre blog sur madada.fr/blog et tous les liens seront mis en ligne sur le site de la radio. Donc je vous remercie Laurent et Pascal d'avoir été là avec nous et merci à l'April pour nous avoir accueillis. C'était une première pour nous.
Merci.
Bah écoutez, merci donc à Laurent Savaette, Pascal Romain, Eda Nano donc de Madada, madada.fr. Comme le dit Eda, toutes les autres références sont sur le site de l'April, april.org et sur causecommune.fm. Et je remercie grandement Eda pour la préparation et l'animation de ce sujet long consacré donc à l'accès aux documents administratifs. Et je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci.
À bientôt. Alors, on va passer directement au sujet suivant. Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le thème du jour, les apprentissages informatiques par les jeunes et moins jeunes. Bonjour Isabelle.
Bonjour frère.
C'est à toi.
Ça va bien ?
Ben, ça va bien et toi ?
Bon, écoute, oui, ça va bien. Mais là, aujourd'hui, ça va être une chronique où je vais un peu râler. En fait, depuis le premier confinement, j'ai eu l'occasion de le dire ici déjà, je crois, on a distribué des dizaines et des dizaines d'ordinateurs reconditionnés et installés avec des distributions libres sous GNU Linux. On a toujours fait ça depuis 2015, le début de l'association, mais là, les choses se sont grandement accélérées. On y passe un temps assez fou, non seulement toute la logistique pour récupérer le matériel, faire des installations, les tests, les éventuelles réparations, les ajouts de RAM, le changement d'un composant, etc. Mais là surtout, c'est un travail énorme que de recevoir les enfants, les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, et les adultes aussi, et de passer un moment avec elles et avec eux pour leur expliquer des choses. C'est une affaire assez complexe en fait que d'arriver à décrypter ce que les personnes savent réellement ou pas en si peu de temps. Oui, on passe à peu près entre 30 et 45 minutes avec chaque personne à qui on donne un ordinateur. On parle des bases d'utilisation de l'appareil lui-même, bien sûr, le fonctionnement de la batterie, les connexions, Wi-Fi, filaire, le nettoyage de l'ordinateur, etc. on parle du système, l'interface graphique, les icônes, les menus du bureau, le tableau de bord, les outils pour le son, les mises à jour. On essaie d'expliquer tout ça avec les termes les plus simples que possible, les plus abordables. Et enfin, on parle bien sûr des applications logicielles classiques, VLC, le traitement de texte, naviguer sur Internet, et puis aussi quelques autres outils tels que Midjity, même si on sait que c'est souvent Zoom que les profs vont leur demander d'utiliser majoritairement. Bon, ceci dit, on installe aussi Zoom pour que les enfants ne soient pas perdus. Mais voilà, on explique aussi des choses sur les cookies, sur les bloqueurs de publicité qu'on a installés sur Firefox, sur le S de HTTPS dans l'adresse, etc. Bon, ça fait énormément de choses à assimiler pour ces jeunes et ces enfants en très peu de temps. Ce qui me fait grandement peur, là, et que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est la façon dont on a déjà inculqué, même aux plus jeunes, que le seul besoin qu'ils avaient était de savoir cliquer. Du coup, ils t'écoutent à peine, sûrs et certains qu'ils ou elles vont pouvoir se débrouiller. Oui, oui, on a déjà vu ça à l'école, tu parles, ils n'ont rien vu du tout, ou si peu. Ce sont les mêmes qui nous rappellent quelques temps après « l'ordinateur ne marche pas ». Ah bon, il marchait quand on te l'a donné pourtant. Oui, mais là ça marche plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Là c'est le clavier. On essaie de comprendre et finalement, les chiffres là en haut, ils s'écrivent pas. Ah, et comment tu fais pour taper les chiffres? Un silence dans lequel j'entends, en fait elle est stupide, elle, pourquoi elle me demande ça? Je tape sur la touche et j'insiste, mais tu frappes juste par exemple sur le 0? Oui. Et ça donne pas un 0, ça donne un A. Vous voyez la suite. On n'avait pas dit comment utiliser le clavier. Bon, maintenant, on vérifie systématiquement que les personnes le savent. Bref, en tout cas, ils et elles nous demandent de leur donner des réponses toutes faites. Des codes pour arriver vite à ce qu'il leur faut faire. Pas le temps de comprendre comment ça marche et pourquoi tel élément a été conçu ainsi plutôt qu'autrement. Ça a l'air idiot ce que je vous raconte, basique. Mais voilà, c'est ce qui se passe crûment dans la vraie vie. Celle où on demande aux mioches d'aller sur ENT, leur espace numérique de travail, qui par ailleurs continue de ne pas être accessible à tout le monde, ça continue d'être saturé. Et on va juste leur montrer, tu cliques ici, tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça, et surtout tu dois rendre ça à telle heure, ton devoir. Alors que les bases du fonctionnement ne sont absolument pas acquises. Ne savent pas la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Ils pensent Google quand on leur parle d'Internet, ils disent Word si on parle de traitement de texte, ils croient que les données sont sur leur ordinateur, voire ne se posent même pas la question, et comme ils utilisent des smartphones, juste avec ce qu'il y a dedans, sans se poser de questions. Certains jeunes sont venus avec l'ordi portable qu'on leur avait donné, en en réclamant un autre parce que ça ne marche pas, j'arrive pas à me connecter à ENT Pronote, en pleine confusion sur le matériel, les applications, n'ayant aucune approche de qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est ailleurs, et tout contrit parce qu'ils pensaient évidemment avoir fait une bêtise. Alors on se demande, nous ici à Antanac, comment faire pour faire avancer les choses pour ces jeunes. Les tout petits moments qu'on peut passer avec chacun, chacune, ne sont évidemment pas suffisants. Personne ne va prendre du temps pour venir à un atelier de partage, ce qu'on organise. En tout cas, pas tant qu'il n'y aura pas de conscience un peu plus complète de ces questions-là. Les adultes viennent dans nos ateliers, mais pas les jeunes et les enfants. Bon, ceci dit, on ne fait pas non plus d'ateliers spécifiques. Peut-être qu'on devrait. Je ne suis pas en train de dire que personne ne fait rien, bien entendu, mais nous constatons que les injustices sont toujours grandes à ce sujet. Selon le quartier où vous êtes, où vous vivez, l'école ou le collège où vous allez, selon que vos parents savent lire ou écrire ou peu, vous n'aurez pas les mêmes chances dans les apprentissages et les capacités d'appropriation et de pouvoir faire des choix, de discerner sur les actions et les activités numériques, de comprendre les risques, bref, de réfléchir. Au-delà de cette question de classe sociale, ce qui me fait peur, c'est que là, on est en train d'engloutir, avec une rapidité déconcertante, toutes les étapes qui devraient permettre de penser la numérisation globale de la société, la connexion permanente, les injonctions à utiliser tel objet, tel outil, parce que c'est pratique. On sait depuis plusieurs années maintenant les risques de la connexion permanente dans le milieu professionnel, également dans les relations entre vie privée et vie professionnelle des adultes. Beaucoup écrivent là-dessus, on parle des problématiques du télétravail, etc., mais on se dépêche de faire en sorte que les enfants et les jeunes soient dans la même situation pour leurs apprentissages et pour leurs loisirs, leur vie sociale qu'on pilote désormais à distance, en ce moment. En ce moment, mais peut-être encore après. Alors, quand on parle d'enfants ou de jeunes décrocheurs et décrocheuses scolaires, ça peut aussi peut-être se penser sur cet axe, non ? Quant à l'histoire du monde du libre, très rares, trop rares sont les enseignants et enseignantes qui prennent le temps de parler de cela, d'expliquer ce « troisième monde » entre guillemets, et de ce que cela signifie. Je suis contente toujours qu'on ait réussi, du fait de cet accroissement des demandes, à faire que de plus en plus de personnes utilisent les logiciels libres, mais c'est pas gagné. les biens communs ne sont pas tout à fait leur préoccupation. Enfin, je veux dire qu'en fait, on ne leur en parle pas ailleurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommageable.
Bah écoute, je suis bien d'accord, et c'est vrai que la semaine dernière, ayant trois enfants de donc lycée, collège et primaire, le début de semaine, enfin toute la semaine a été compliquée, mais pas uniquement effectivement pour les élèves, aussi pour les enseignants et les enseignantes, hein, parce qu'ils sont laissés un petit peu à l'abandon par leur ministère.
Par leur ministère, voilà.
Et puis notamment, on va faire référence quand même au cher ministre, comment il s'appelle déjà, Blanquer. Non, je cherche le prénom en fait, j'ai un trou de mémoire. Jean-Michel. Je crois que c'est Jean-Michel. Un truc comme ça. On va me corriger.
Ah ouais.
Voilà, qui était plutôt là pour accuser peut-être des attaques extérieures, oui, ou des collégiens qui se sont mobilisés pour faire tomber les services du CNED, alors que tout simplement, ils n'étaient pas du tout prêts. Et quand tu parlais aussi de la séparation entre vie privée, alors j'enlève mes lunettes parce que j'ai un petit problème de flou, vie privée et vie professionnelle, il y a des enseignants. Notamment sur un de mes enfants qui a envoyé des consignes à 21h ou 22h, je ne sais plus quoi.
C'est
donc
ça.
En dehors de ses horaires de travail, donc une surcharge monumentale, et ce n'est pas comme si on ne savait pas qu'il y aurait cette nouvelle vague, et je pense que la prochaine vague, on sera toujours pas prêt.
Ça sera toujours ça.
Ça sera toujours terrible, oui. Donc, et oui, effectivement, alors je remets mes lunettes pour voir sur le salon web, on te dit courage, oui, Jean-Michel, mon confident, parce que c'est Jean-Michel Blanquer. C'était vraiment pas une blague, je ne me souvenais plus exactement du prénom. Donc si vous voulez découvrir notamment en Tanac, les locaux d'Antanac, ben ce sont nos voisins et voisines. Vous êtes au 18 rue Bernard Dimet dans le 18e et nous sommes au 22. Donc voilà, n'hésitez pas à passer ou simplement vous aussi aller sur le site antanac.com. Donc c'était la chronique d'Antanac, Isabelle Carrère, qui est présidente d'Antanac, c'est ça? Voilà, toujours présidente d'Antanac. Alors comme on a encore un petit peu de temps, on va enchaîner directement avec une chronique préenregistrée. Donc on va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc. Alors cette Pituite de Luc a été enregistrée initialement pour l'émission du 30 mars 2021, mais nous n'avons pas pu la diffuser faute de temps. Son titre, c'est Cruel Mégapixel. Écoutez, on va l'écouter, elle dure 4 minutes et on se retrouve juste après.
C'est peut-être la 100e de Libre à vous, mais c'est aussi ma 13e Pituite. Je ne suis pas superstitieux, sauf quand le chiffre 13 apparaît, ou que je brise un miroir, ou que je croise un félin de couleur sombre, ou que je renverse des condiments, plus quelques autres trucs. Du coup, j'ai enregistré depuis sous mon lit, où j'ai trouvé refuge. Parce que le direct, c'est dangereux. Je lisais une biographie de Frank Zappa récemment, et ça m'a motivé à ne pas sortir. En 1971, un de ses fans a eu la fameuse idée de tirer une fusée de détresse dans le casino de Montreux, où se déroulait le concert. Il a engendré une série de catastrophes, matériel de la tournée réduit en cendres, casino de Montreux réduit en cendres, mais aussi composition du tube Smoke on the Water par Deep Purple. Moins d'une semaine après, un autre fan a agressé Zappa, lui occasionnant des fractures multiples, un traumatisme crânien et le larynx écrasé. Bon, ok, c'est peut-être les fans qui sont dangereux. Et ce n'est pas Ena Matsuo Kae qui dira le contraire. Cette jeune et jolie chanteuse japonaise postait ses selfies sur des réseaux sociaux et s'est fait agresser par un fan. Le mec a zoomé sur une des photos au point de trouver le nom de l'arrêt du bus situé devant chez elle, dans le reflet de son œil. Mais bon, pourquoi ai-je peur? Pour me faire agresser par un fan, il faudrait déjà que je sois célèbre. Or, j'en suis loin. Dans mon avant-dernière pituite, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie des lingots d'or, et j'en ai aucun. Mais, toujours au Japon, un motard cinquantenaire racontait ses périples sur Twitter en se faisant passer pour une jeune et jolie motarde. Il utilisait FaceApp pour changer sa tête. Les belles balades d'un motard sont bien moins intéressantes qu'une belle motarde en balade. Un fan a examiné un reflet, encore une fois, et a levé la supercherie. Et du coup, si ça se trouve, le danger, ce n'est pas la célébrité, ni le direct, ce sont les mégapixels. À cause d'eux, sur Internet, tout le monde peut savoir que vous êtes un vieux. On n'aurait jamais dû aller au-delà de 640 sur 480. On veut nous faire croire que le règne du mégapixel, c'est bien. C'est l'éternelle jeunesse, comme Carrie Fisher qui apparaît jeune dans un film du XXe siècle. J'ai découvert que Brel est passé des 360 pixels en noir et blanc de la télé d'antan aux 1080 pixels de la HD et à la couleur par la magie d'un deepfake, commis par un certain Chris Hume. Le résultat est atroce, le visage de Brel est inexpressif, synthétique, il ne transpire plus. Pour être raccord, il aurait fallu faire déclamer « Ne me quitte pas » par une synthèse vocale inexpressive à la place de sa légendaire interprétation qui prend aux tripes. Et il existe aussi Deep Nostalgia, qui est un outil qui permet de construire des avatars de personnes disparues. On importe une photo et une IA en fait une animation, comme les tableaux qui bougent dans Harry Potter. Une boîte nommée Dead Social propose également de piloter les comptes de réseaux sociaux des gens décédés pour envoyer des messages pour les anniversaires ou autres événements du genre. Que se passera-t-il quand les destinataires mourront aussi? Deux machines se souhaiteront bon anniversaire et se répondront merci jusqu'à la fin des temps, ou le dépôt de bilan de l'entreprise, je suppose. Tout cela me fait penser à cette citation. Le spectacle, en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Il faut toujours connaître une citation de Guy Debord si on veut entretenir son côté prétentieux et pompeux. N'empêche qu'à force de se la répéter, ça finit par faire sens. Ça doit être une variation intello du syndrome de Stockholm. Parce que cette non-vie au travers des mégapixels reste limitée dans le temps, quoi qu'on en dise. Zappa est mort d'un cancer à l'âge de 52 ans, et les nombreux enregistrements de son vivant ne produisent pas de nouvelle musique. Et finalement, la cinquantaine est peut-être plus dangereuse que les mégapixels. Plus proche de nous, Yann Le Polytech a succombé à l'âge de 59 ans au Covid. Il était un camarade libriste qui avait, entre autres choses, réanimé l'espace numérique de la Fête de l'Huma. La Fête de l'Huma, c'est cet événement qui célèbre le prolétariat, mais où le champagne coule à flot en coulisses. Ça fait tellement petit bourgeois. Mais bon, le sarcasme est facile, et cet espace numérique était l'occasion pour les libristes de parler à beaucoup de monde, année après année, 100 mégapixels entre eux et nous. Il est trop tard pour remercier Yann Le Polytech encore une fois pour ses espaces humains. Puissions-nous le prendre comme exemple et vivre de plein droit aussi longtemps que possible.
C'était donc la chronique La Pituite de Luc, intitulée donc Cruel Mégapixel, enregistrée initialement pour l'émission donc du 30 mars 2021, qui était la centième. Et toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de Yann Le Polytech, qui était quelqu'un en plus absolument adorable. Alors nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors je suppose que vous rêvez d'avoir la classe comme l'équipe de l'April. Pourquoi la classe? Parce que tout simplement l'équipe de l'April porte un t-shirt, le nouveau t-shirt de l'April, le logiciel libre donne de la voix. Bon, alors j'ai triché un peu parce qu'en fait Isabelle peut voir que je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais voilà, inspiré par l'un des projets phares de l'association, bah évidemment l'émission de radio Libre à vous que vous écoutez actuellement, nous avons fait un nouveau t-shirt dont le design a été réalisé par notre graphiste préféré Antoine Bardelli. Ce t-shirt vous pouvez le trouver sur le site de enventelibre.org. Donc enventelibre.org est un site qui regroupe plusieurs associations qui permet de commander différents goodies, CD, DVD, t-shirt de plusieurs sources d'associations. Donc il y a des Bian, il y a l'April, il y en a d'autres. Donc voilà, vous pouvez trouver le t-shirt au prix incroyable de 17 €, coupe unisexe, je crois, si je me souviens bien, je crois qu'il y en a une trentaine qui sont disponibles actuellement. Attention, ça part très vite parce que les t-shirts de l'April, c'est vraiment la classe absolue. Je regarde l'heure. Deuxième annonce, auditeurs et auditrices de notre émission, vous aimeriez peut-être échanger avec nous. Peut-être que vous avez envie de nous poser des questions, de nous faire des remarques, ou même nous, on a envie d'échanger avec vous, de vous connaître. Alors bien sûr, vous pouvez nous contacter par courriel ou par d'autres moyens sur april.org et sur causecommune.fm, mais vous préférez peut-être un échange plus convivial dans lequel on se voit. On vous propose donc un nouveau rendez-vous hebdomadaire, enfin c'est avec le troisième ou le quatrième, chaque mardi, juste à la fin de l'émission à 17 h en visioconférence. Donc rendez-vous dans quelques instants sur le site visio.libreavoue.org. Je répète, visio.libreavoue.org. Bon, on restera pas très longtemps parce que je crois qu'on est contraint par des horaires après. Je sais pas pourquoi, quelle raison exactement, mais il faut qu'à un moment on rentre. Pour tous les autres événements, vous pouvez regarder sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors, je vous rappelle simplement, je vais en profiter, j'ai encore un tout petit peu de temps, que vous pouvez laisser des messages sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou tout simplement nous laisser un message, ou sur d'autres émissions. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que Isabelle anime une émission, alors je ne sais plus quel jour c'est, rappelle-moi.
Le lundi après-midi
sur l'habitat. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46, mais vous retrouverez les informations sur causecommune.fm. Je rappelle que l'émission est plus globalement la radio contributive, donc n'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes invitées. Vous pouvez ainsi contribuer à l'émission. Vous trouverez sur les sites april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter. Et vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou aider la radio par un don, par des actions bénévoles. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Vincent Calame, Laurent Savette, Pascal Romain, Eda Nano, Isabelle Carrère, Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabelle Vanni. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Lang 1, Sylvain Kutzmann, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui fait la finalisation. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur le site april.org et sur le site causecommune.fm toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. Je vous invite par exemple à écouter l'émission d'Isabelle sur l'habitat, ou encore chaque samedi à 14h, le camarade de William qui anime l'émission Superculture, qui est une sorte de revue de presse commentée avec Thomas, je crois qu'il est en Suisse, sur l'actualité de l'informatique. Et vous pouvez appeler, donc n'hésitez pas, c'est de 14h à 16h chaque samedi. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 20 avril 2021 à 15h30. Je ne sais pas actuellement quel sera le sujet principal, ce sera la surprise. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée. N'oubliez pas qu'on se retrouve à 17h sur visio.libreavoue.org. Et sinon, on se retrouve en direct mardi 20 avril. Et d'ici là, portez-vous bien.